nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Focus aujourd'hui s'intéresse à l'état de la recherche en Tunisie avec Radouane Elouz, professeur émérite au Centre de biotechnologie de Sfax, en Tunisie bien sûr, membre du Conseil consultatif de la recherche et de la technologie. Radouane Elouz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au cœur de l'Institut de France dans le studio de Canal Académie. Nous profitons de votre déplacement à Paris pour le prix Roberval 2008 pour évoquer avec vous la question de la recherche et de l'enseignement supérieur en Tunisie. Nous évoquerons également au cours de ces 25 minutes votre implication en tant que membre du jury pour le prix Roberval, prix international francophone qui récompense des œuvres de vulgarisation scientifique. Et ça s'est déroulé donc le 23 janvier 2008 pour sa 21e édition. Mais commençons, si vous le voulez bien, nous allons donc profiter de votre visite pour faire le point sur la recherche en Tunisie. Peut-être, pourquoi pas faire un comparatif avec la France. Quand on parle de recherche, ça sous-entend également enseignement supérieur, puisque c'est à ce moment-là que nous formons les futurs chercheurs. En France, à l'université, la réforme de l'université prévoit d'avoir des investissements en partie publics, mais également en partie privé. Qu'en est-il pour la Tunisie au niveau de l'enseignement supérieur ?
Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à votre émission. Concernant la question de la recherche scientifique en Tunisie, je veux dire qu'elle est passée par différents stades. En 2007 actuellement, l'université tunisienne va fêter son 50e anniversaire. Je considère qu'elle est relativement jeune et la structuration de la recherche, aussi bien de l'enseignement supérieur que de la recherche scientifique, s'est faite en plusieurs étapes. La première étape, elle a été utilisée pour la mise en place des structures de formation, des structures de recherche. Et si je dois dire l'évolution, parce que c'est important de regarder un peu l'évolution du nombre d'étudiants pour voir un peu l'importance que prend le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Tunisie qui est en train de se développer, on est passé dans les années 80 de 30 000 étudiants à aujourd'hui, il y a à peu près en Tunisie, dans les différentes institutions universitaires, quelque chose comme 350 000. Donc, il a fallu quand même investir énormément dans la formation. Et la formation a été faite aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger, et en particulier en France. Il faut rendre hommage aux actions de l'ambassade de France en Tunisie, qui a pris en charge quand même une grande partie de la formation par les bourses de troisième cycle, etc. Du gouvernement tunisien, bien entendu, aussi. Parce que, en fait, les bourses,
elles passent par là. C'est le gouvernement qui les fournit, bien sûr.
Ça passe par là. Donc, toutes ces étapes-là, il a fallu passer par ces différents stades. Maintenant, si on regarde le problème de la recherche scientifique à proprement parler. En fait, la recherche scientifique jusqu'aux années 90, c'était pratiquement des initiatives personnelles des chercheurs au sein des institutions universitaires. Il y avait des mécanismes de financement indirect de la recherche, soit à travers l'ambassade de France et à travers la coopération tuniso-française, soit à travers la coopération aussi avec la communauté européenne. Et ça a permis de développer un peu les structures de recherche par ces moyens-là.
Et maintenant que ces structures existent ?
Maintenant que ces structures existent, il faut dire pourquoi j'ai dit 90, parce qu'en 1990, en fait, il y a eu la création pour la première fois en Tunisie d'un secrétaire d'État dédié à la recherche scientifique. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'on veut mettre l'accent au niveau du gouvernement sur la recherche. Elle avait pour mission de créer les structures de recherche et les lois qui ont mis en place toutes les structures de recherche. La loi d'orientation sur la recherche scientifique a été publiée en 1996, avec en particulier la mise en place des unités de recherche, des laboratoires de recherche, la mise en place du Conseil supérieur de la recherche scientifique, présidé par le Premier ministre, et du Conseil consultatif de la recherche. C'est un organisme qui est censé donner son avis au gouvernement sur tous les problèmes qui concernent la recherche scientifique. Et la troisième structure très importante qui a été mise en place, c'est le CNEA, c'est le Comité national d'évaluation de la recherche. C'est une pièce maîtresse de la politique nationale en matière de recherche scientifique.
Et créée en 1996.
96. Donc, il a été créé, donc les décrets d'application sont sortis dans les années qui ont suivi. Mais depuis, le nombre de laboratoires au niveau national a augmenté aussi de manière très importante. On est passé d'une dizaine de laboratoires dans les années 96 au départ. Maintenant, il y a plus de 140 laboratoires. Il y a actuellement aussi plus de 600 unités de recherche. Et disons, l'avantage qu'il y a eu à mettre en place ces structures de recherche, c'est qu'ils ont induit un financement indépendant des institutions de recherche. Ça, c'est extrêmement important, je pense, pour la mise en place de la politique de la recherche. C'est-à-dire, le laboratoire reçoit une subvention de l'État sur un contrat-programme sur ses activités de recherche dans les 4 années qui vont suivre. Donc, pendant 4 ans, il est sûr de recevoir la somme sur laquelle ils sont mis d'accord avec le ministère.
Et au-delà des 4 ans ?
Au-delà des 4 ans, il faut se soumettre à une évaluation externe. Il y a des personnalités scientifiques qui viennent de l'étranger, nationales, etc. Ils passent en revue toutes les activités de recherche du laboratoire ou de l'unité. Et ensuite, ils émettent un avis. Et c'est le CNER ensuite qui doit prendre la décision de la reconduction ou pas de la structure de recherche.
Et en cas de non-reconduction, ce laboratoire doit trouver des financements privés ? Comment ça se passe ?
Il doit retrouver des financements extérieurs. En fait, les financements des laboratoires, il y a cette partie du contrat-programme. Il y a aussi la coopération internationale. Parce que le nombre de contrats-programmes de laboratoires qui reçoivent aussi des subventions dans le cadre de la coopération internationale, et en particulier à travers la communauté européenne ou à travers les programmes CMCU, etc. en France, disons le nombre de laboratoires qui reçoivent ces financements sont de plus en plus importants. Et donc, il y a aussi bien l'argent qui vient de l'État et l'argent qui peut venir de l'extérieur. Maintenant, ça a été, cette phase-là est assez importante. Il fallait passer par ce stade-là de la mise en place de ces structures. Maintenant, il faut passer, je pense, à un deuxième stade. C'est le deuxième stade de développement. C'est impliquer maintenant le secteur industriel. Jusqu'à maintenant, bon, dans le cadre de la recherche scientifique, il faut dire, préciser, bon, il y a de l'industrie qui est en train d'investir aussi bien dans les écoles d'ingénieurs que dans les structures de recherche propres. Parce que en fait, à côté des laboratoires universitaires de l'université, l'État, depuis les années 80 ou même avant, a mis en place des laboratoires propres, des structures, des instituts de recherche qui sont dédiés uniquement à la recherche. Et il y a des chercheurs à plein temps qui travaillent dans ces structures de recherche. Ça, c'est sur le plan financement global. Et le deuxième stade, ce qui est important maintenant, c'est comment impliquer le secteur industriel. Et il faut dire que le secteur industriel a commencé déjà à intervenir, à financer.
Donc la question ne se pose pas, en fait, en Tunisie. C'est déjà actif.
Mais il faut structurer tout ça. Il faut l'organiser maintenant organiquement et impliquer le secteur de la recherche. Quand je dis impliquer le secteur de la recherche dans... Bon, il y a certaines activités de recherche qui ont une finalité industrielle, donc l'industrie est directement intéressée, mais il faut quand même qu'il y ait des liens plus organisés avec le secteur industriel et lancer même des programmes maintenant en commun entre le secteur industriel et les structures de recherche. Mais la phase qui est passée de mise en place des structures est absolument indispensable, sinon on ne peut pas faire autrement que ça.
Et ces organismes qui sont chargés de structurer cette mise en place, c'est notamment le rôle du Conseil consultatif de la recherche.
C'est le Conseil supérieur de la recherche.
Conseil supérieur de la recherche.
Le Conseil consultatif émet des avis. Il peut donner son avis sur ou proposer des mises en place de structuration, etc. Aider à la structuration.
Comme vous le disiez au début de cette émission, donc 350 000 étudiants, il faut bien sûr pouvoir les accueillir. Donc ce sont 190 établissements. J'entame la partie chiffres, hein, si vous le voulez bien. Donc 350 000 étudiants avec 190 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et parmi ces 190 établissements, 24 instituts supérieurs d'études technologiques, ISET, ou
ISET,
3 instituts de formation des maîtres, 13 universités. Et en 2006-2007, 15 nouveaux établissements ont ouvert leurs portes. Ça semble assez important, 15 nouveaux établissements.
En fait, disons, au moment de l'indépendance, il y avait des familles très nombreuses en Tunisie. On avait assez souvent des familles avec 5, 6 ou 4, 5 enfants. Et donc, il y a eu un boom pendant cette période-là. Et ces naissances sont arrivées sur le marché de l'université. Et il fallait assurer, et puisque la politique du gouvernement, c'était obligatoirement de permettre à tout étudiant qui a son bac d'accéder à l'université. Donc, il fallait mettre en place toute une politique pendant ces 20 ou 30 dernières années, une politique qui a été mise en place pour créer des institutions universitaires. En 1974, l'année où je suis rentré en Tunisie, il y avait quelque chose comme 15 000 ou 20 000 étudiants. On était une quinzaine ou une vingtaine d'institutions d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, ils sont plus de 190 à 200 institutions universitaires. Donc, il y a eu de la période de 1974 à aujourd'hui, et depuis surtout les années 90, un effort très important dans la construction pour essayer d'absorber, d'essayer de permettre au nombre d'étudiants, à ces étudiants-là, de suivre des études d'enseignement supérieur. D'autant plus que l'enseignement supérieur, en fait, a servi en Tunisie d'ascenseur social. Et l'ascenseur social, étant donné qu'il a servi pour permettre à des personnes d'arriver et d'améliorer leur situation sociale, donc tout le monde a voulu faire des études supérieures. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement vers la médecine, la chirurgie dentaire, pharmacie, école d'ingénieurs, etc. Donc, les formations longues. Et on s'est rendu compte en Tunisie, depuis les années 95-96, qu'il y avait trop de cadres supérieurs sans les cadres moyens. Et par conséquent, ils ont mis en place toute une politique à ce moment-là de formation des instituts supérieurs d'enseignement technique qui sont équivalents aux IUT en France. Et depuis cette période-là, chaque gouvernement a au moins une ISAT dans la région.
Venons-en à vous plus particulièrement, si vous voulez bien. En préparant cette émission, vous m'aviez indiqué que donc vous avez fait une partie de vos études en France. Vous êtes parti après en post-doc aux États-Unis. Vous êtes revenu, comme vous nous l'aviez dit à l'instant, en 1974, vous êtes revenu en Tunisie. Et en 83, et nous allons y venir, vous créez le CBS, Centre de Biotechnologie de Sfax. Pourquoi êtes-vous revenu en 1974 en Tunisie? Parce que vous vouliez enseigner dans votre pays?
Je suis revenu en Tunisie, en fait, pour des raisons personnelles aussi. Pour des raisons personnelles, parce que je venais d'avoir des jumelles. Et que, bon, la vie en Tunisie, quand même, est relativement beaucoup plus simple que de rester en France, d'une part. Et d'autre part, bon, je voulais quand même revenir en Tunisie pour essayer de voir un peu ce qui était possible de faire. Et surtout, pour moi, à cette époque-là, j'envisageais déjà de mettre en place des structures de recherche.
Donc vous aviez quand même une idée derrière la tête en revenant.
Absolument.
C'était la mise en place du centre de biotechnologie.
Pour moi, c'était développer les biotechnologies en Tunisie. Parce que j'ai suivi le postdoc à New York, ça m'a ouvert les yeux sur la biologie moléculaire. Deux, en 73, il y a eu la création de l'UTC.
Oui, donc l'Université de Technologie de Compiègne.
J'ai suivi cette création de l'UTC. Le concept de création de l'UTC m'a énormément séduit à l'époque. J'étais en France et j'ai essayé de voir un peu comment voir ce concept et si on pouvait transférer une partie de ce concept dans un pays en voie de développement tel que la Tunisie. Donc, je suis rentré effectivement en 1974. Le hasard a voulu qu'on me propose, dès mon arrivée en Tunisie, de mettre en place, il y avait à cette époque-là, l'idée d'une décentralisation, parce qu'il n'y avait pratiquement que deux ou trois institutions universitaires en Tunisie à l'époque, en 1974. Il y avait la Faculté des sciences de Tunis, qui a été créée, en fait, depuis les années 58-59. C'est la première institution universitaire tunisienne depuis l'indépendance. Il y a eu l'ENIT, qui a été créée dans les années 70. Et il y avait la faculté de droit et de sciences économiques et la faculté de médecine. Voilà les quatre institutions. Et il fallait, étant donné que le nombre d'étudiants, on savait déjà, d'après les statistiques, qu'ils allaient augmenter.
Accroître.
Donc, on a posé le problème de la décentralisation. Et Sfax, c'était la deuxième ville en Tunisie. Et il fallait créer une structure d'enseignement et de recherche à Sfax. Il y a eu, à ce moment-là, la création de la décentralisation s'est faite aussi bien à Monastir, sous Monastir, et à ce fait, donc, les trois grands centres universitaires en Tunisie.
En 1983, donc, naît le centre de biotechnologie.
En 1983, en mettant en place la formation dans le domaine de la biotechnologie, à l'image qui a été fait à Compiègne, et en coopération, d'ailleurs, avec l'université de Compiègne, une fois mise en place cette formation, en 1983, on a créé le centre de biotechnologie. Une fois qu'on était pratiquement certain, parce qu'il fallait former les étudiants, parce qu'il n'y avait strictement rien dans ce domaine-là à cette époque-là. Donc, il a fallu faire venir des enseignants de France pour assurer l'enseignement sur place. Ensuite, il fallait sélectionner les étudiants pour les envoyer en France pour faire des thèses et des post-docs éventuellement en France. Et ensuite, récupérer tout ce monde-là en Tunisie, dans le cadre d'une structure déjà créée. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des gens se former sans qu'il y ait déjà un embryon de structure qui puisse récupérer et recruter demain un certain nombre d'enseignants qui étaient en formation. Donc, il fallait mettre les structures, les bases en place.
Combien de temps vous avez dirigé ce CBS?
En fait, à l'époque de 83, j'étais nommé directeur du CBS. Je suis resté jusqu'à 2003, 20 ans. Et le CBS, en fait, il est passé par différents stades de développement. Le premier stade, c'est la mise en place de la structure de base. Ensuite, depuis les années 90, c'est démarrer les programmes de recherche au niveau de CBS, les définir, les démarrer. Ensuite, la troisième phase, c'est la construction du siège définitif du CBS. Les constructions ont démarré en 2002, en fait, Et maintenant, il est complètement terminé.
Et vous qui êtes le papa de ce centre de biotechnologie de Sfax, vous regardez grandir cet enfant ?
Ah, j'y vais tous les jours. Je continue à y aller tous les jours. Et même, je continue à faire partie d'un laboratoire actuellement, d'un laboratoire de CBS sur les biotechnologies végétales. Et je continue à suivre les activités de, pratiquement de près, dans la mesure où je vais assez souvent là-bas.
Autre activité que vous menez de front, vous participez, vous êtes membre. Alors, j'allais chercher... Le titre exact, parce qu'à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux, du comité consultatif.
Oui, conseil consultatif de la recherche.
De la recherche et des technologies de Tunisie.
Oui.
Donc, créé en 96 et vous êtes membre depuis cette date.
Depuis déjà 3 ans, je suis membre de ce comité. En fait, c'est un comité qui a été créé pour donner un avis sur tout ce qui concerne la recherche scientifique. Et en fait, les membres sont constitués de tous les gens qui ont touché de près ou de loin aux activités de la recherche ou qui ont travaillé dans les ministères, les hauts cadres de l'État, en fait, qui ont travaillé dans les ministères, les anciens ministres. On se retrouve donc et en train de réfléchir sur des problématiques communes qui peuvent intéresser à la recherche. Et ensuite, on fait notre rapport annuel au président de la République qui dispose de ces rapports-là.
Vous êtes combien, 15?
On est une quinzaine de membres.
Quinzaine de membres, donc actifs. Et actifs. Vous restez, vous avez des mandats, comment ça se passe?
On a un mandat, on s'est réunis assez souvent d'ailleurs. Et on traite chaque fois une question. Par exemple, on a traité le problème des biotechnologies en Tunisie, on a traité le problème de l'handicap, on va parler maintenant des problèmes de nanotechnologie, on va parler des problèmes des biocarburants. Donc, il y a différents thèmes qu'on développe, qu'on essaye de mettre en place. On les présente. On peut faire venir des gens de l'extérieur pour nous présenter la problématique. Et ensuite, on discute entre nous pour voir un peu quelle démarche il faudrait entreprendre pour développer ces secteurs-là que nous considérons comme des secteurs très importants et essayer de les mettre en place ensuite, demander au gouvernement de comment les mettre en place, etc.
Venons-en, si vous le voulez bien, au prix Roberval,
oui.
Qui nous vaut d'ailleurs votre visite ici à Paris. Donc, c'est un prix qui est organisé par l'UTC, l'Université des technologies de Compiègne, dont on a parlé il y a quelques minutes et auquel vous êtes fidèle, attaché.
Ah oui.
Pourquoi faites-vous partie du jury?
Lorsqu'on m'a demandé si je voulais faire partie de ce jury-là, j'ai accepté tout de suite, pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est la communication dans le domaine de la technologie et essayer de développer cette question-là.
La communication vers le grand public.
Vers le grand public, même au niveau de l'enseignement supérieur. Les livres d'enseignement supérieur, etc., les prix enseignement supérieur, c'est au sein de l'enseignement supérieur. Disons, on est là, quoi. La Tunisie, c'est un pays francophone, faut pas l'oublier. C'est une université relativement jeune. Les cours, les bases des cours actuellement, la base, ce sont des polycopiés. Il faudrait quand même pousser les gens, les enseignants, à développer leurs cours, à sortir des livres plus structurés. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, il y a une université virtuelle. Donc, elle est censée mettre en ligne des cours pour des étudiants en formation. Donc, ces cours, ces supports audiovisuels sont importants aussi. Donc, ça peut intéresser aussi le prix Roberval. Et ensuite, il y a, je dois dire, en dehors de ces questions de communication, d'essayer de développer ces questions-là, personnellement, j'éprouve beaucoup de plaisir à faire partie de ce jury-là. J'apprends beaucoup de choses, des méthodologies, des voies, de voir un peu d'autres technologies que les biotechnologies, le secteur dans lequel je travaille depuis relativement longtemps. Et ça permet de voir des horizons nouveaux, d'autres types, d'autres façons de voir.
Alors, pour revenir peut-être à des choses peut-être plus pragmatiques, donc le prix Roberval, qui est un prix qui vise à valoriser les ouvrages, les initiatives de vulgarisation scientifique, même oui. S'il y a effectivement une partie dédiée à l'enseignement supérieur, comme vous l'avez très justement souligné. Donc, ce sont 15 pays représentés, des pays francophones, oui. 450 auteurs, candidats, et 94 œuvres sélectionnées. Vous lisez tout.
Non, on lit ce qui est la sélection, oui.
Donc les 94 œuvres sélectionnées.
Absolument, on les regarde très volontiers. Personnellement, je passe pratiquement 2 mois et demi à lire et à regarder les émissions télé, les CD-ROM, etc.
Alors maintenant qu'on connaît le nom des lauréats, est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous dire, vous, votre choix, vers qui portaient les œuvres qui vous intéressaient le plus?
Moi, je dis, dans le cadre, ce qui est bien, c'est qu'on arrive quand même à un consensus. Il y a un consensus. Et les œuvres qui ont été primées, je pense, c'est un consensus général qui a été adopté. Et les lauréats représentent pratiquement
votre choix.
C'est le reflet de ce consensus et de mon choix.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir rendu visite. J'incite bien sûr nos auditeurs à télécharger les émissions qui sont en lien avec les lauréats du prix Robert Val, que nous allons recevoir très peu de temps après votre visite. Et bien sûr, j'incite nos auditeurs à aller sur le site de l'UTC et notamment sur le site du prix Robert Val, où on trouve toutes les informations complémentaires. Merci Radon Elouz de nous avoir rendu visite. Et une prochaine fois.
Pour
l'année prochaine. Au revoir.
Merci.